RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, 23 petits points, c'est peu et c'est ce qui a manqué au 15 de France pour décrocher samedi soir un premier trophée en 10 années de tournoi et de vache maigre. Alors c'est vrai que c'est frustrant, pourtant la frustration est loin d'être le sentiment dominant à l'heure du bilan de ce tournoi 2020. Non, car dans cette compétition disputée sur 9 mois, l'équipe de France s'est réconciliée avec son public, a trouvé une identité de jeu et a réveillé en nous une ambition démesurée, celle de devenir champion du monde à la maison dans 3 ans maintenant. Alors ce rêve pourra-t-il se transformer en réalité? À quelles conditions? Pour cela, je vais demander à nos poteaux, Denis Charvet, Wilfried Templier, Jeff Patureau et Manu Massicard. Bonjour messieurs.
Bonjour,
je vais vous demander, les garçons, de vous transformer en Madame Irma, en Nostradamus et autre Madame Soleil. On verra quelles sont vos prédictions. On évoquera également avec vous le frelon de la semaine qui fait évidemment partie de cette équipe de France puisque Grégory Aldrit a même été désigné à 3 reprises homme du match durant le tournoi, le 3e ligne centre des Bleus, véritable découpeur de roast beef et autres Irish. Et puis, nous sortirons tout de même quelques minutes de l'environnement du 15 de France pour nous pencher sur le cas du SU Agen qui prend l'eau de toutes parts et a même changé d'entraîneur ce week-end après une 7e défaite consécutive. Mais avant cela, replongeons-nous quelques instants dans cette belle soirée dionysienne où nos petits coqs de France nous ont à nouveau régalé. Ça fait tellement de bien.
Et c'est parti entre la France et l'Irlande sur ce coup d'envoi de Romain Tamac. Quelle percée de Ficou intérieur pour Dupont, c'est... Le premier essai français.
Dupont,
le premier essai français. Dupont qui remet intérieur pour Ntamack. Essai, essai ou pas? Ouais, essai.
Essai de Ntamack. Quel essai toulousain.
Toulousain. Je te l'avais dit, Ntamack il allait marquer avant le match, t'as pas voulu m'écouter.
C'est vrai.
Le coup de pied par au-dessus d'Ntamack, c'est magnifique ce qu'il vient de faire à l'intérieur. Il y a peut-être du monde à hauteur d'Ntamack.
Essai,
l'essai. L'essai magnifique. Quel essai encore une fois. Quel essai de ces sacrés Français. Victoire de l'équipe de France, 35 à 27. La France finit deuxième du tournoi Destination.
Voilà, 15, un 15 de France enthousiasmant, donc vainqueur de l'Irlande 35-27, qui a encore franchi les lignes d'but à 4 reprises, qui fait quand même 9 essais inscrits en une semaine face à 2 références du rugby européen. Alors oui, je le disais, il a manqué quelques petits points pour décrocher la victoire dans le tournoi, mais franchement, messieurs, on est même pas frustrés que cette victoire finalement revienne à l'Angleterre. Bon, que ça revienne à l'Angleterre, c'est un peu énervant, Denis, mais quand même, franchement...
Voilà. Même pas, moi je m'en fous que ce soit les Anglais ou les Irlandais. Après, il faut retenir la satisfaction de que tous les talents que l'on a, les talents que l'on connaît, ben, se sont révélés, surtout ont confirmé qu'ils avaient le potentiel pour tutoyer le très haut niveau, parce que là on parle du très haut niveau, et donc c'est ça la grande satisfaction pour moi du week-end.
Ouais. C'est vrai qu'on s'attendait, enfin on se demandait à quelle sauce le 15 de France allait être mangé après ce long confinement, après cette défaite. En Écosse, on se disait qu'ils allaient peut-être retomber dans leur travers, Manu, mais non, ils sont pas retombés dans leur travers. Ils ont même réussi à remporter 2 matchs consécutifs face à 2 références du rugby mondial. Et ça, c'était pas gagné d'avance non plus. Hein.
Ouais, je relativiserais fortement notre victoire contre le Pays de Galles.
Oui, chez lui face
à
l'Écosse.
En revanche, il y a une vraie victoire, hein, une vraie belle victoire et grande victoire qui veut dire quelque chose. Ça peut être un match fondateur et une victoire référence. C'est contre l'Irlande, évidemment. Tu disais tout à l'heure que c'était 20 et quelques points d'écart qui nous séparent du titre. Ouais, certes, c'est beaucoup.
Ou un point.
C'est
ou un point.
Ouais. C'est beaucoup ou peu à la fois, parce que cette équipe, elle a montré évidemment de très très belles choses sur ces deux matchs-là.
Ouais. Et surtout, et ce qu'il faut dire et insister, c'est que l'Irlande a fait un gros match. Il y a une occupation du terrain, Wilfried, tu peux le confirmer, de 66% en première mi-temps, un truc comme ça, ce qui est énorme.
Ouais, terrain et possession, mais donc, l'équipe de France joue comme ça maintenant.
Oui,
elle se débarrasse pas du ballon, mais elle laisse le ballon à l'adversaire, elle joue au pied chez
non,
les
mais
autres,
pour jouer
un peu comme,
si... comme
les grandes nations. Quoi,
oui, mais pour jouer
un peu comme les Blacks.
Non, mais un peu comme les Blacks,
ouais.
j'allais
on
le
va,
dire.
Ouais, on va y
mais
dire.
Je veux dire, pour jouer comme ça, il faut être très doué. C'est pas donné à tout le monde, justement, de prendre ce parti pris de contrer, d'essayer de marquer en contre. Il faut gratter,
il faut défense, Denis,
voilà
aussi.
Défense, il faut
tenir. Il faut avoir une grosse défense, hein,
il faut avoir du cardio,
cohésion, quoi.
Absolument, il faut avoir du cardio, il faut être fort physiquement. C'est ce qu'ils sont aujourd'hui.
Attention, après, l'Irlande, ouais. C'est quand même une équipe qui nous correspond sur ce rugby. On peut lui filer le ballon. Elle a pas non plus une vitesse de jeu effarante. Elle a pas non plus des en dehors de Sexton qui est vieillissant. Elle a pas des super cadors partout et elle ne présentait pas un risque immense. Elle pouvait nous user. C'est nous qui l'avons usé.
Ouais. Tu relativises quelque part, Manu, finalement. Tu te dis que bon, le Pays de Galles, c'était pas, c'est plus un Cador, c'est plus le Cador que c'était. L'Irlande, bon, c'est une équipe qui nous correspond. Bon, finalement.
Non, je relativise plus. Je dis juste, ne voyons pas l'Irlande plus belle qu'elle n'est aujourd'hui. Et en revanche, je dis, putain, cette équipe de France, elle m'a fait bander, tout simplement. Et donc, oui, aujourd'hui, on a le droit d'y croire.
Il y a juste une chose, messieurs, c'est par rapport à cette deuxième place. C'est parce qu'on vient d'en prendre plein la gueule pendant 10 ans. Parce que ça aurait été il y a 10 ans, on aurait dit, oh, on a perdu le tournoi. Parce que de 2000 à 2010, on en a reparlé un peu avant le match, autour du match. La France a gagné 5 fois le tournoi de 2000 à 2010. Mais avec tout ce qu'on a vécu depuis 10 ans, là, finalement, cette deuxième place, on se dit, waouh, eh ben, on est deuxième, c'est cool. C'est derrière nous et on a mangé notre pain noir. Donc, voilà, il y a le contexte aussi.
Non, mais d'accord, mais
tu oublies que ça fait qu'on a 3 matchs à domicile. T'as raison, Wilfried. Et tu oublies que c'est un petit tournoi parce qu'on n'a pas vu une équipe d'Angleterre, pas vu une grosse équipe du Pays de Galles et d'Irlande. Donc effectivement, ça te satisfait.
D'accord, mais l'équipe de France, comme on l'a vu, c'est le rendu qui est important. Il y a 2 ans, on n'aurait jamais gagné contre même l'Irlande de samedi soir. On arrive à avoir. C'est une équipe qui est aujourd'hui en pleine confiance, qui n'a plus vraiment de doute, c'est-à-dire qu'elle est en pleine maîtrise. Et ça, on peut dire que c'est dû aussi au staff, à Fabien Galthié, aux gens qui composent ce staff, qui ont travaillé et qui travaillent d'une manière très professionnelle.
Jeff, on l'a perdu où ce tournoi ? En laissant le point de bonus défensif à l'Angleterre
ou alors
le coup de poing de Hawass qui nous réduit à 14 contre 15 écossais ?
Plusieurs éléments, tu en parlais, c'est le premier match contre l'Angleterre, vice-champion du monde en titre, au Stade de France, dans les dernières secondes, une boulette malheureuse d'Antoine Dupont, qui par ailleurs fait un très bon tournoi, et les Anglais prennent le bonus offensif dans la foulée. Puis en Écosse, quelques semaines plus tard, cette fois c'est en Écosse, on est réduit à 14 après un coup de poing de Mohamed Hawass, et là c'est vrai que ça coûte très cher cette défaite pour cette équipe de France, qui est encore en construction, mais aussi peut-être plus globalement la défense de l'équipe de France. Il faut rappeler qu'on a pris 13 essais sur l'ensemble de la compétition, c'est plus que toutes les autres équipes sauf l'Italie. On a encaissé 117 points et là aussi il y a des vrais progrès à faire.
Le tournoi on le perd aussi en Italie, 35-22.
Il y a
très peu d'écart.
Ouais, prendre 2 essais dans le dernier quart d'heure.
Alors que toutes les nations ont scoré, nous on ne score pas. Et du coup,
tu le perds aussi à Edimbourg. Pour revenir à Edimbourg.
Oui, Edimbourg. Mais si tu fais le job en Italie, Manu, tu le gagnes le tournoi.
Oui, tu fais le job contre l'Angleterre, tu fais le job contre l'Italie.
Tu peux perdre un match. Oui, mais tu peux perdre un match. C'est ça que je veux dire. Dans l'absolu, ou alors tu fais le grand chelem. Mais là, si tu peux gagner le tournoi en perdant un match, tu as le droit.
Je veux dire, Denis, c'est qu'on a un défaut de cette équipe. C'est un peu sa jeunesse, son absence de maîtrise. Et le contexte écossais, on l'a pris pleine gueule, quoi. Il n'y a pas que le coup de poing d'Hawass qu'on a pris en pleine figure. Il y a les joueurs ont pris l'ambiance, l'arrivée du bus, ils ont découvert la pression ce jour-là en Écosse.
Oui, et le staff,
c'est le match qu'il aurait fallu jouer en confinement, celui-là, face à l'Écosse.
Je pense. Parce que tu vois, si le staff a maîtrisé beaucoup de choses, il y a peut-être ce contexte écossais qu'ils n'ont pas su maîtriser. Peut-être un peu moins bien inspiré les joueurs par rapport à tout ça.
Il y a eu le carton jaune à Kroos, il y a eu le chaos d'Entama qui a eu beaucoup de choses.
Ouais, les blessures.
Ils avaient été meilleurs que nous.
Tu le perds à plein d'endroits, effectivement. Alors, après avoir appelé à garder la tête froide la semaine dernière, aujourd'hui, on se lâche. On entre dans la mêlée en se demandant tout simplement si nos bleus ont le potentiel pour devenir champion du monde dans 3 ans.
L'action, Liège, jeu.
Voilà, ces bleus qui nous ont redonné le sourire n'ont pas séduit que les Français. Clive Woodward, par exemple, l'ancien sélectionneur du 15 de la Rose, champion du monde en 2003, avait déclaré dans le Daily Mail la semaine dernière que c'est la France contre laquelle l'Angleterre doit aujourd'hui se mesurer. Ce 15 de France n'est pas encore un produit fini, mais je vois une génération exceptionnelle de joueurs brillants mûrir ensemble et d'évoquer le duo Dupont-Ntamack, potentiellement
c'est Madame Irma,
la meilleure
lui.
Charnière du monde. Il faut se méfier, hein, Denis, lorsque les Anglais nous tressent comme ça des lauriers. De la sorte,
il a la boule de cristal, il voit que les Dupont Ntamack qui sont très forts, mais ils sont pas très forts, c'est deux phénomènes. S'il n'y avait pas besoin de Woodward pour savoir.
T'es sévère, Denis. Il nous a accordé une interview l'année dernière au moment des Oscars, tu y étais.
Oui.
Il nous disait déjà ça. Il n'avait pas inventé ce discours avec les résultats. Il ne court pas après la victoire. À l'époque, il avait dit « L'équipe de France a des joueurs exceptionnels. L'équipe de France doit croire en son jeu. Elle doit arrêter de copier les autres. Et il faut que vous retrouviez cette identité. » Oui, à Fabien Galthié, il le disait à l'époque. Et finalement, un an plus tard, quasiment, il avait raison.
Ouais. Denis, prenait des photos avec lui à l'époque.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que tu as des générations de joueurs très talentueux qui passent au travers, qui ne font pas des carrières. Là, on a des joueurs très talentueux, mais qui arrivent à confirmer et à se révéler. C'est vrai qu'on a, on a eu plein Manu pendant des générations. Il y a eu des joueurs qui sont passés à côté.
Oui, parce que la génération précédente...
La génération de la loose, comme on les appelait.
La génération de la loose, mais ouais. C'était surtout dans la tête.
C'était pas parce le même que talent, les enfants. Hein.
Oui, alors Manu, la génération précédente avait pas beaucoup de talent par rapport à celle d'aujourd'hui. Il y avait pas de joueurs de classe mondiale.
Il n'y a pas le talent qu'on a aujourd'hui. On retrouve des joueurs exceptionnels. Dupont est un joueur exceptionnel.
Il y a 10 ans, tu avais des Rougeries, tu avais des.
Des Picamoles.
Ouais, non, c'est en dessous.
D'accord.
Sans faire offense à personne.
Et puis là, on met des mecs et on les laisse. Et c'est pas 3 bons matchs de top 14 qui te fait aller en équipe de France.
Bien sûr.
Il a redoré le blason, Fabien Galthié, parce qu'il a dit ça se mérite et on va pas changer tout le temps. Il l'a dit.
Tu sais ce qui change.
Il faut donner de l'expérience à ces mecs.
Wilfried a raison. Ce qui change, c'est ça. On a une structure, on a une équipe qui ne bouge pas. Je crois qu'il est là, il y a 12 joueurs qui ont tout joué sur ce tournoi. C'est assez énorme. Derrière, tu as une adhésion à un projet. Les joueurs qui sont en place, ils ont trouvé de la confiance. Ils ont gagné. Ça, c'est nouveau parce qu'au début, on ne gagnait pas en équipe de France. Donc là, on a gagné contre l'Angleterre. Derrière, il y a eu un projet qui a été posé et les joueurs, ils croient au projet. Le mérite de Galthié, c'est d'avoir fait adhérer ses joueurs à son projet, c'est son principal mérite.
Et la chance de Galthié,
de choisir ses joueurs.
La chance de Galthié aussi, c'est peut-être qu'il ça lui a fait gagner du temps, c'est qu'il était à la Coupe du Monde l'année dernière, avec notamment Laurent Labitte, avec Thibaut Giroud, et ils ont peut-être gagné du temps pour construire leur projet à partir du mois de janvier.
Alors Manu, dans ton édito du jour dans Midi Olympique, tu compares le jeu nouveau de l'équipe de France à celui des Blacks, notamment dans la faculté à faire des ballons de récupération, des ballons d'essai. Notre jeu, tu le penses vraiment, se rapproche de celui des All Blacks? C'est plutôt une bonne nouvelle, ça.
C'est on est capable de jouer très rapidement dans la vitesse, on est capable de jouer ces ballons de récupération, on est capable aussi d'être froid et patient et comme le disait Wilfried tout à l'heure, de laisser le ballon à l'adversaire. Les Blacks finalement ils font pas autre chose et ils sont froids, ils sont cliniques sur certaines actions, ils sont capables de tuer les matchs. Quand nous on se perdait jusqu'à maintenant en improvisation, finalement aujourd'hui tu as des joueurs de haut niveau qui sont capables de tuer les matchs.
Excepté qu'on fait beaucoup plus de fautes que les Blacks, on est plus indisciplinés. Je sais pas si tu as vu le match contre l'Australie, les Blacks ils ont pris le jeu à leur compte. Hein. On ne peut pas dire qu'ils ont joué en contre. Hein.
Ouais. C'est le principe. C'est ce principe-là de cette équipe qui est capable de tout tuer quand il le faut. Évidemment qu'on ne ressemble pas encore aux Blacks. On s'inspire un petit peu des Blacks. À mon sens, on s'inspire des Blacks.
On a été pénalisé 45 fois quand même sur le tournoi.
C'est énorme.
On débute, on a 5 matchs dans les jambes.
Ouais. Denis, tu as été un peu le symbole toi, du French Flair. Est-ce qu'aujourd'hui, ces garçons-là sont tes successeurs? Est-ce que le French Flair, ça existe encore ou c'est uniquement du domaine du fantasme?
Pierre Amiche, il me dit, Lauriette, tu as été le French Flair.
Mais pas du tout.
Mais non, d'abord, le French Flair, ça veut rien dire. Après, tu sais, je crois que les joueurs. Moi, ce qui m'a inspiré.
Denis, c'est de faire de peu de ballons une étincelle et quelque chose comme ça.
Mais tu sais, ça part de quoi? Ça part d'une envie, mais ça part de la confiance. Moi, j'ai toujours dit que si tu as le plein de confiance et que tu n'es pas en décalage avec le talent que tu as, et bien, tu en profites et tu joues. Et tu exploses.
Ah, donc ça existe.
Oui, bien sûr que ça existe. Mais oui, tu le vois, le petit Romain Tamac, c'est ce qu'il fait, il n'y a que lui qui peut le faire. Bakatawa de la même façon, le petit Dupont dans un autre registre aussi. Mais c'est des joueurs hors normes, Mais faut-il encore prendre confiance en soi?
Un garçon comme Ficou, capable et aussi brillant au centre qu'il peut l'être à l'aile, comme ça a été le cas ce samedi. Les Bleus, qui ont des grands talents donc à quasiment tous les postes, et des joueurs capables peut-être de figurer dans un 15 mondial. Jeff, si tu avais quelques à sortir et que tu mettais comme ça dans un 15 mondial, une sélection mondiale.
Il y a 3 joueurs français qui ont été nommés pour le titre de meilleur joueur du tournoi Destination. Grégory Aldry, dont on va parler, Romain Tamac et Antoine Dupont. On pourrait rajouter Vakatawa, le facteur X, le meilleur centre du monde avec Radradra en ce moment. Il y a plein de talents dans toutes les lignes et encore, en plus, on le disait, c'est une équipe jeune. La marge de progression pour Antoine Dupont, elle est considérable. Dans 3 ans, la Coupe du Monde, il est programmé pour être le numéro 1 des numéros 9.
Tu as oublié Leroux, parce que Leroux fait un tournoi exceptionnel.
Leroux, Olivon, Marchand.
Marchand, oui.
Ouais. Cyril Bay, il fait pas de bruit aussi, mais
gros, tu as raison.
Une équipe donc qui a encore quelques progrès à faire, on en est tous conscients, notamment peut-être dans l'animation offensive, parce que c'est vrai que dans le désordre, elle est fantastique, cette équipe de France. Mais lorsque il faut poser le jeu et construire l'animation, là, c'est un peu plus compliqué. On peut progresser là aussi, là-dedans, ou alors il faut laisser la folie et justement uniquement sur des ballons de récupération.
Je pense que la stratégie, elle est claire de la part de Fabien Galthié. C'est pas dans ce ce registre-là. Lui, il a posé ses conditions. C'est quoi ? C'est une grosse, grosse défense. C'est-à-dire qu'on ne lâche rien. Éventuellement, on va récupérer ces ballons-là pour être performant dans les récupérations de ballons. Enfin, mais sa stratégie, c'est avant tout de cette occupation du terrain avec une défense de fer. Et c'est pour ça qu'il travaille à haute intensité, qu'il travaille le cardio à fond pour que ces joueurs-là ils soient toujours présents de la première à la dernière minute.
Alors, on a une génération dorée, on a aussi une équipe type qui s'est dégagée. Maintenant, c'est vrai qu'il a eu de la chance quand même, Fabien Galthié, car il n'y a pas eu de gros blessés, même si la François Cros s'est blessé. Il va falloir maintenant apprendre aussi à gérer avec les absences des uns et des autres, avec les désidératas des clubs, avec les blessures. Et c'est là aussi, Jeff, qu'on va voir ce que vaut vraiment cette équipe de France quand elle n'aura pas tous ses atouts dans la main.
Là, on le disait, Fabien Galthié a plutôt eu de la chance, parce que quasiment tous les joueurs ont pu enchaîner. On se rappelle que Ratez s'était blessé sur le premier match, que Cyril Bail s'était blessé quelques semaines plus tard. Pour le reste, sinon, peut-être qu'on aurait eu le même 15 du début à la fin dans cette équipe de France. Et c'est vrai qu'il va falloir élargir. Si Romain Ntamack se pète, on met qui à la place ?
Déjà libéré.
Sauf que, est-ce qu'il a encore le niveau ? Pourquoi pas un Carbonel ? Il y a des joueurs qui vont pouvoir être testés dans les semaines à venir. Et c'est vrai que ces 6 matchs, potentiellement, sont plutôt une chance malgré tout.
Ouais, c'est nécessaire parce que tu le vois sur les deux derniers matchs là, qui viennent de s'écouler, ou même en Écosse, hein, on a un problème de banc. Ouais. On a un 15 de départ, certes, qui fait référence aujourd'hui, mais derrière, on a le réservoir n'est pas tout à fait au niveau. Alors certes, on ne peut pas toujours être dans l'exceptionnel comme avec Dupont, Ntamack et compagnie, mais il va falloir qu'on trouve des joueurs.
Un garçon comme Crétin a fait une super entrée, Manu. Hein,
Tape Demba-Bamba aussi, Camicha, n'en parlons pas. Tu es sévère sur le banc quand on a ces joueurs-là. Mais quand on a ces joueurs-là sur le banc, c'est quand même...
Je le crois sincèrement, Denis. Et sans faire injure à personne, on a un très bon 15 de départ, on a un banc qui reste à améliorer.
Mais pour moi, c'est complémentaire. Enfin, je n'ai pas la même opinion que toi.
Très bien.
Regarde sur la deuxième ligne.
Deuxième ligne peut-être.
Aujourd'hui, sur les ailiers,
Damien Penaud n'est pas là.
Il n'est pas là, mais je te parle de ce banc aujourd'hui. Arthur Retière découvre, il faut lui laisser le temps de venir. On n'a pas un arrière qui s'impose. Je dis une bêtise, mais au centre, quand on va faire l'équipe pour la suite, on va être en difficulté au centre, à l'aile et peut-être en deuxième ligne.
Eh bien, on verra ce que donnera cette équipe de France face au prochain adversaire. Jeff, ce devrait être les Fidji à Vannes le 15 novembre au prochain. Ce devrait être parce que ce n'est pas encore gagné, hein, cette histoire-là.
Oui, malheureusement, la pandémie pourrait perturber la rencontre car les Fidji sont rassemblés à Limoges depuis quelques jours et il y a plusieurs cas de Covid-19 dans les rangs fidjiens, entre 6 et 8, dont Verne Cotter qui ferait partie de ces éléments touchés par la pandémie. Malheureusement, ça pourrait être encore pire. Les joueurs fidji ont passé des tests lundi. On attend les résultats dans les heures à venir. Et là, on va vraiment savoir s'il y a un souci pour ce match. C'est ce qu'on nous dit dans les rangs fidjiens. Pour l'instant, du côté de la Fédération française de rugby, on se veut rassurant. En tout cas, on veut y croire, car c'est un match important. Si jamais le match était reporté, annulé, qu'est-ce qu'on fait ? L'équipe de France jouerait 5 matchs ? Et il y a une vraie interrogation, sachant qu'il y a une Coupe des Nations, une Coupe d'automne des Nations, qui a été mise en place avec des poules réparties. On ne sait pas trop, mais pour l'instant, on veut croire que le match aura lieu, mais il ne faudrait pas qu'il y ait 10 cas de plus demain ou après-demain.
Eh bien, nous wait and see, comme disent les Anglais, les Écossais, peut-être les Fidjiens. Si, allez, il est l'heure maintenant de décerner dans les poteaux le titre de frelon du week-end.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Et ce samedi, on avait sous le maillot bleu une joyeuse bande de frelons. Difficile évidemment d'en ressortir un en particulier. C'est vrai que le tandem du point de Tamac a encore été énorme, que Gaël Ficou baladait à l'aile, du centre à l'aile, a tout réussi. Mais celui qui a vraiment crevé l'écran et a battu de l'Irlandais à tir larigot, Wilfried, c'est Grégory Aldrit, le troisième ligne centre des Bleus. Défenseur incroyable, mais pas que défenseur. Hein.
Oui, pas que. Le solide de Condon est devenu le Goliath du 15 de France. Alors, Aldrit a seulement 23 ans, bien installé au centre de la troisième ligne des Bleus. Et il sort, excusez du peu, et tu l'as dit précédemment, de 3 trophées d'homme du match dans le tournoi contre l'Angleterre, homme du match, contre l'Italie, homme du match, et donc contre l'Irlande. Dans un mélange de Laurent Rodriguez pour les plus anciens et Louis Picamol pour les plus jeunes, mais bien plus régulier que ce dernier. Aldrit fait tout, il percute, il tamponne 27 plaquages contre l'Irlande. 27, vous entendez bien. Il trie des ballons, mais surtout, il avance toujours. Et ça, le contact, il aime. Alors, ça lui vient peut-être de ses origines britanniques, mais rectifions, pas officiellement écossaises. Hein. Son père, Terence, expliquait il y a quelque temps dans Midi Olympique que le grand-père de Greg Aldrit était né à Dublin et que lui-même était né au Kenya. Il n'avait vécu en Écosse qu'à partir de l'âge de 10 ans. Mais bon, il a quand même des tantes et oncles écossais, certainement un reste de gène de William Wallace qui expliquerait son goût pour le combat. C'est en tout cas la maman de Grégory qui vient du Gers. Et donc, lui et ses trois frères carrière, tous nés à Toulouse, ont grandi là-bas. Niveau rugby, Condon, puis Auch, d'où sortent tant de talents, sont vite trop petits pour ses larges épaules et c'est La Rochelle qui remporte le gros lot. Il fait son premier match en amical à 20 ans, en juillet 2017 face à Brive. Je vous avoue, j'y étais. Je me suis dit, qui c'est ce gars-là ? Tellement il m'avait fait une forte impression à l'époque. Et depuis, il n'a cessé de progresser au point d'être parfois nommé capitaine au relais de Vito. Il est appelé en bleu pour la première fois en février 2019. Il y a seulement un an et demi, en fait. Hein, mais on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Il le sera sûrement pendant longtemps. Un des membres incontournables de cette nouvelle génération bleue.
Il joue où, Wilfried ?
Non, pas cette perche énorme.
Ils l'ont fait re-signer et ils ont eu raison.
Grégory Aldrit, Denis, tu le mettrais là aussi dans le 15 mondial, ouais, aujourd'hui avec, oui, ses prestations durant ce tournoi.
Oui, sans problème. Moi, il m'a bluffé ce garçon parce que d'abord, il est très jeune, mais il a une assurance. Il a une assurance en lui. Il n'y a pas de doute chez lui. Et c'est vrai que tu as l'impression de voir presque un joueur comme un All Black. C'est-à-dire qu'avant, on avait ce défaut français qui était de temps en temps, mais de pas être performant. C'est des vrais athlètes aujourd'hui. C'est un gladiateur, ce gars. C'est moi, il me bluffe. Voilà, c'est le monsieur.
Peut-être bien fait en plus, ouais. Denis. Hein, et ingénieur, enfin, je veux dire, c'est important sur le terrain.
Et surtout, il m'entend très bien. Ouais.
Et je pense que c'était le joueur qui nous manquait. qui nous manquait parce qu'on parle, on parle tout le temps de cette épine dorsale, quand même, de l'axe 2, 8, 9, 10, 15. Là, on a quand même, tu regardes le 2, 8, 9, 10 et 15. Bon, mais c'est extraordinaire.
Il y a un cerveau, ça change tout.
Oui, il y a un cerveau, voilà. Et puis il y a une confiance aussi. Je dis, il n'y a pas de doute dans cette équipe. Je pense que le staff aussi a apporté sa touche. Et à ce niveau-là, on sent des joueurs qui sont gonflés à bloc et qui doutent de rien. C'est
et Wilfried le disait, ce qui est fou, c'est que son premier match international, c'est le 1er février 2019. C'est tout récent, en fait.
Oui, c'est tout récent.
Il arrivait de fédéral avant de jouer à La Rochelle.
Il était à Auch, hein, avant d'arriver à La Rochelle. Ouais.
Ouais. Tout à l'heure, je vous parlais d'adhésion au projet. On parle aussi d'inspiration. Ce staff inspire ses joueurs. Et aujourd'hui, la confiance qu'a Grégory Aldrit et d'autres, elle se ressent sur le terrain, elle se voit. Quand il prend la parole, je suppose que on a tous vu la vidéo de la remise des maillots, ses mots sont justes et il transpire de l'émotion, mais il est aussi dans la maîtrise et il est dans la projection. Il veut embarquer ses potes. Tout simplement, il maîtrise son sujet. Ouais, ce garçon-là, aujourd'hui, à 23 ans, il sait pourquoi il est là et ce qu'il doit faire. Ben, ça fait toute la différence.
Voilà, Grégory Aldrit, donc homme du match, et il l'a été à 3 reprises durant ce tournoi Destination. C'est l'une des valeurs sûres de ce 15 de France. On reviendra tout à l'heure sur l'équipe de France, mais tout de suite, on va sortir la boîte à gifles entre les poteaux.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Et la boîte à gifles, c'est à Agen qu'elle a été sortie ce week-end. Le SUA battu pour la 7e fois en 7 matchs, et pas petitement. Hein. Les Lot-et-Garonnais se sont inclinés 71-5 sur la pelouse du quasi-voisin Bordeaux-Béglet. Une lourde défaite très mal vécue par celui qui était encore samedi soir au moment de cette interview, le manager du SUA, Christophe Lechuc.
Je ne vais pas répondre à des questions, j'ai rien à dire vu la nullité de notre... De notre prestation, je ne vais pas chercher d'excuses, je ne vais pas chercher à commenter, j'ai rien à dire sur cette prestation de ce soir, à part que je suis triste pour les partenaires du club qui cette semaine encore ont manifesté leur soutien en disant qu'ils ne demanderaient pas de remboursement, aux supporters qui ont eu aussi l'élégance de ce geste, et voilà, je suis triste pour tous ces gens qui nous soutiennent, j'ai pas de commentaire à faire sur le néant de ce soir.
Tristesse et néant, nous dit Christophe Lechuc. Jeff, ça a également énervé Jean-François Fontenot, le président agenais, qui a réagi en deux temps. D'abord sur Twitter, puis dans son vestiaire. Il était très remonté, le président.
Ouais, effectivement, c'était dans l'air du temps, malheureusement, puisque Christophe Lechuc et Rémi Vaquin étaient sur la sellette depuis quelques matchs. Il faut dire que 7 rencontres, 7 défaites, un petit point seulement depuis le début du top 14. C'est très maigrichon. Le staff a pris la porte. C'était dans l'air du temps et c'était officialisé hier après-midi par un tweet de Jeff Fontenot. Je peux vous dire que Jeff Fontenot, quand je l'ai eu au téléphone hier, il était vraiment très très remonté contre son staff, contre ses joueurs aussi. Certains n'ont plus la place dans notre effectif et ça s'est vu aujourd'hui, puisque les dirigeants agenais ont pris la décision d'écarter 3 joueurs, Pouloutoua, Vaca et Tolagui, 3 joueurs qui cette semaine vont rester chez eux, vont pas participer à l'autogestion du club agenais. Il y a le feu, il va falloir réagir. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Le prochain match, c'est contre Lyon ce week-end. Le SUA a déjà un pied en pro des deux.
Voilà, sanctions financières et sanctions, ouais, contre les joueurs, il y va pas demain,
ouais,
entre le président.
Ouais, c'est dur, ouais, mais en même temps...
C'est
bon,
dur, hein, quand on a entendu le suc, hein, Denis. Hein. C'est dur d'entendre le suc comme ça, c'est un dur métier quand même.
Moi, j'ai joué avec Christophe, donc c'est un bon mec, c'est pas c'est pas un mauvais entraîneur. Le truc, c'est que t'as pas l'effectif. Et puis, n'oublions pas qu'ils ont perdu 5 joueurs clés. Ils ont un effectif qui est pas le même que l'an passé, où ils arrivaient à gratter quelquefois de à domicile, à gagner des matchs. Mais voilà, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle parce qu'il n'y a pas.
Le truc qui avait été sauvé par son vestiaire la semaine dernière, Wilfried, qui avait insisté pour que Fontenot ne le vire pas à ce moment-là.
Oui, parce qu'il y avait une réaction en fin de match contre Agen, parce qu'ils n'avaient pas complètement lâché. Mais est-ce que c'est pas, vu le budget d'Agen, c'est leur histoire de faire le yo-yo entre top 14 et Pro D2.
Les joueurs ont clairement
lâché.
C'est
plié depuis des années, Agen. Faites l'équipe où il y a deux équipes depuis 5 ans, des joueurs qui sont partis d'Agen jouer ailleurs dans les meilleurs clubs. C'est pas possible.
Les joueurs ont clairement lâché ce week-end.
Ah oui, dans 70
c'est,
points.
C'est pas normal, c'est pas seulement la faute
non,
du
mais
staff.
C'est une démission, mais en même temps.
Ah non, bien sûr.
Moi, je trouve que Jeff, il a raison, mais en même temps, ça doit rester en interne, ça doit se partager.
Ah, Denis, tu peux pas tweeter comme ça pour virer ton entraîneur. J'espère au moins que.
Qu'il en a parlé avant.
Ils étaient prévenus avant.
J'espère.
Mais non, mais c'est ce que je te dis, Manu.
Mais c'est terrible de virer un entraîneur sur Twitter comme ça. Mm. C'est terrible. Je dis pas qu'il doit pas faire le choix, mais pas sur cette forme-là. Et quand tu t'appelles Agen, Wilfried l'a dit, que tu as ce budget-là, que ça fait des années et des années que tu fais du yo-yo, tu dois te poser la question de savoir si tu formes toujours assez de joueurs pour assurer ton avenir quand tu en vends 5, quand tu en laisses partir 5, comme il s'est passé l'année dernière. Et surtout, cette année, tu dois être patient. Tu dois pas mettre la pression comme ça sur le staff et couper la tête des mecs. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Avec quel joueur ? Avec quel entraîneur ?
Bon, parce que là, tu prends un staff. On ne pas là-bas. Après, on ne sait pas ce que ça vit au quotidien. Mais je trouve la décision compliquée aussi. Mais bon, on verra.
Agen qui pointe aujourd'hui à 7 points de Castres, avant-dernier du classement.
Deux
matchs en moins. On ne voit pas comment il pourrait s'en sortir et rester encore dans le top 14
non,
à la fin de la saison.
Fontenot,
même avec un nouvel entraîneur. On parle de Regisson, je crois. C'est ça, c'était dans Middle aujourd'hui.
C'était une info du Middle il y a quelques heures. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'échanges directs, mais ça se précise. Pour l'instant, c'est pas fait. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Mais c'est vrai que ce que disait Fontenot, c'est qu'ils maintenant ils vont peut-être lancer des jeunes qui ont les crocs, qui vont montrer le vrai visage du club. Parce que pour l'instant, c'est pas même pas un visage d'équipe qu'ils ont présenté.
Mais est-ce que pour ça, tu as besoin de changer d'entraîneur ? Comprends ce que je veux dire.
Oui, oui.
L'avenir d'Agen, certainement qui passe en par la Pro D2, au moins l'année prochaine. Mais il faut construire quelque chose. Et c'est pas en foutant le feu au club comme ça, en se mettant la pression plus que de raison, que tu prépares l'avenir.
Voilà, un ancien grand bastion du rugby français en difficulté, comme l'ont été d'autres clubs précédemment. Tout de suite, voici Côté Fermé, les dernières infos de la planète rugby.
RMC, entre les poteaux.
Côté Fermé.
Voilà, alors on va peut-être s'intéresser à Radradra, qui pourrait être adversaire de l'équipe de France dans quelques jours, si évidemment il n'y a pas le Covid, Jeff. Hein.
Effectivement, on l'avait annoncé forfait, blessé pour cette nouvelle compétition. Sauf que dans les jours à venir, le Fidjien, peut-être le meilleur centre du monde avec Vakatawa, va arriver à Limoges, le camp de base des Fidji, pour poser ses valises et normalement pour préparer ce match avec notamment Léoné Nakarawa au sein de l'effectif. Les Fidji qui vont potentiellement, ça va dépendre du nombre de cas de Covid, ont potentiellement une super équipe.
Oui. Et Radradra, c'est magnifique. Hein.
Radradra, qu'on soit français, fidjien ou turc ou ce que vous voulez, c'est un super joueur, tout le monde l'adore. Et c'est vrai que ça pourrait faire le bonheur, malheureusement pas du public de Vannes, mais des téléspectateurs. Hein.
Tu es en train de nous dire qu'il vaudrait mieux qu'on reporte le match pour rester invaincu ?
Ouais.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà une solution pratiquée donc par Jeff Paturo. L'info du middle. Manu, dans le middle aujourd'hui, dossier complet sur le rugby amateur qui évidemment souffre comme souffre également le rugby professionnel. Mais le rugby amateur est plongé dans une situation quasi dramatique avec ce nouveau confinement.
Hein. Ouais, c'est terrible parce qu'on en a tous parlé. Mais là, l'état des clubs est en vraie souffrance. On se dit que le national va chercher des dérogations, mais qu'il n'est pas sûr de pouvoir les obtenir. On se dit que la Fédérale 1, beaucoup de clubs ne souhaitent pas reprendre en l'état parce qu'il y a des difficultés à payer des salaires. C'est aussi le cas en Fédérale 2. Aujourd'hui, le rugby, comme le sport amateur en général, est en grande difficulté et il va falloir qu'on sorte rapidement de cette situation de crise de Covid pour que le sport reprenne ses droits et qu'il mérite une autre chose que la place qu'on lui accorde aujourd'hui.
Voilà, le rugby amateur, mais également le rugby professionnel. Hein, Jeff, les chiffres là aussi sont assez inquiétant, sinon plus.
Oui, effectivement, parce qu'il y avait une discussion avec le gouvernement. Avec des jauges à 5000 spectateurs, le top 14 aurait perdu 54 millions d'euros pour une demi-saison, c'est-à-dire de septembre à décembre. 5000, hein. Donc, sauf que depuis, on est passé à 1000 et désormais à 8 clos. Pour la même période, les pertes estimées pour une demi-saison à 8 clos, ça représente 180 millions d'euros pour le top 14 et Pro D2. Et si on ajoute les pertes globales du printemps, ça fait 280 millions d'euros.
Moi, j'ai croisé Didier Lacroix hier soir au stade français. Il n'a pas de solution que la solution de l'aide de l'État. Voilà. Ouais. Quand je lui pose la question.
Il y a des prêts garantis de l'État.
Quand je lui pose
PGE,
la question,
là,
Emile Denis, je n'ai pas de solution. Et il est très.
Et la solution de la réduction des salaires.
Mais ils ont baissé de 15%, il m'a dit.
Ils ont baissé de 15%.
15%, ce qui est beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est raisonnable, quoi, tu vois. Et puis, il m'a dit, à un moment donné, on ne pourra pas baisser les salaires, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas,
Mais peut-être réinventer ça, Denis, hein, dans les mois à venir.
Oui,
les années à venir,
bien sûr. Mais il ne faut pas que le Covid punisse aussi le monde professionnel aussi. Tu vois, c'est aussi.
Alors, toi aussi, on va baisser ton salaire.
Eh oui. Non, mais pas le mien, mais je veux dire.
Ah, ben tiens, pourquoi pas le tien. On va le reverser, on va le reverser.
Je croyais que tu t'as augmenté.
Mais le mec tout de suite, non pas moi, non pas moi.
Je suis solidaire, mais faut pas non plus exagérer.
Non, par contre Moscato, on peut.
Merci Denis pour ta solidarité. Moscato, oui, Moscato. D'abord Moscato, après moi.
Merci messieurs les poteaux, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast, en espérant évidemment que des matchs de rugby aient lieu le week-end prochain. Il n'y aura pas l'équipe de France, il faudra attendre, on l'espère, 15 jours. Bonne semaine, à la semaine prochaine.